Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine. Et ce matin, Héloïse Brion, alias Miss Maggie's Kitchen et Perla Servan-Schreiber partagent leurs conseils pour recevoir au beau jour. Le journaliste Julien Bisson vous conseillera deux livres pour accompagner ce long week-end de Pentecôte. Et ce sera la chef Angèle Ferremag qui vous délivrera sa recette pour le week-end. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice. Le philosophe le plus chic de France Inter, quel est le menu de votre chronique philo ?
Il y a une question que tout le monde se pose, faut-il ou non rendre une invitation à dîner ?
Ah, vaste question, bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
De retour après le festival de Cannes, votre chronique c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié, qui deviendra notre pote cette semaine ?
Eh bien, elle s'appelle Martine et elle reçoit des amis, ou peut-être pas finalement tant amis que ça. Et franchement, c'est une catastrophe.
Elle est moyennement sympa.
Et elle est moyennement sympa.
Vous allez nous la rendre
sympa quand même. Mais oui, je vais vous la rendre sympathique, bon. Je vais essayer.
Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
Qui préfère que je la tutoie tout au long de cette émission ?
Bonjour.
Quel est le menu de ta chronique sexe en fin d'émission ?
Ali, chaque semaine, tu me demandes quelle va être la thématique de la chronique. Et c'est toujours exactement la chronique de l'émission, mais en sexe. Donc
quel
là, on
bon
parle
élève.
De recevoir, donc recevoir en
quel
sexe.
Quel bon élève. N'hésitez pas à partager vos conseils pour bien recevoir. Pourquoi aimez-vous les grandes tablées ? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Angèle Ferremag.
Bonjour Ali.
De retour dans cette émission après un heureux événement. Félicitations.
Merci
et longue
beaucoup.
Vie à votre bébé, chère Angèle. Vous êtes la chef de la guinguette d'Angèle et autrice de Bons, Simples et Sains chez Marabout. Alors avec quelle recette allons-nous nous régaler ce week-end ? Guillemette est déjà en train de boulotter ce que vous avez préparé.
Alors on va se régaler avec une recette qui est belle parce que recevoir c'est aussi exciter tous les sens et donc c'est une recette qui va être jolie. C'est un petit une tartelette comme un sablé de parmesan avec un bouquet de légumes de saison et de fleurs dessus.
Voilà, ben Guillemette hein.
Ah tout à fait. Et le sablé, la consistance du sablé, mais j'en suis déjà jalouse.
Malika vous demande comment faire un confit d'oignon inratable, Angèle.
Alors, pour vraiment pas rater son confit d'oignon, je conseille déjà de couper les oignons assez finement. En fait, à la coupe, on va pouvoir définir aussi la cuisson. Donc, si, la cuisson va être homogène s'ils sont coupés très finement. La mandoline, c'est génial si on sait y faire.
Attention aux doigts.
Attention aux doigts, exactement.
Vous préférez les oignons rouges ou les oignons jaunes ?
Ah, moi, je préférais les oignons rouges.
D'accord.
Peut-être plus sucrés. Et aussi, je conseille de remplacer le sucre par du miel. Ça va apporter un goût, une profondeur un peu plus intéressante. De mettre un filet de vinaigre balsamique, de commencer à feu très doux les oignons tout seuls avec un filet d'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Et ensuite, on rajoutera le miel, le vinaigre, on mettra un petit coup à feu vif pour qu'ils caramélisent. Et ensuite, on rebassera et on les laissera confire pendant une heure, le temps que vraiment ils s'amalgament.
Nos deux invités vous écoutent avec beaucoup d'attention. Bonjour Héloïse Brion.
Bonjour Ali.
Alias Miss Maggie's Kitchen. Vous publiez chez Flammarion un très beau livre, Mon art de recevoir, très inspirant pour utiliser un mot agaçant de l'époque. Bonjour Perla Servan-Schreiber.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions de La Martinière un tout petit livre qui tient dans la paume des mains, mais 30 recettes d'été, vos 30 recettes préférées emportées partout. Vous êtes d'accord avec cette recette de confit d'oignon ?
Ah ben moi, je suis tout à fait ravie de ça. J'adore les confits d'oignon. Moi, je les fais en gratin et je mets du sirop d'érable. Mais voyez, c'est à peine des petites nuances.
Et Louise Brion ?
Oui, tout pareil. Moi, j'aime bien ajouter un petit peu de thym frais aussi à la fin.
Alors, tout à l'heure, vous allez nous donner vos conseils pour bien recevoir, partager de grandes tablées. Ça reste l'un des meilleurs antidépresseurs naturels, Perla Servan-Schreiber ?
Ah ben alors ça, c'est la joie est garantie. Et si elle n'est pas là, c'est peu importe ce qu'on mange, c'est qu'on a tout raté. Donc la joie est là et moi je suis au fourneau quand je reçois mes amis parce qu'il y a un bar devant les fourneaux, donc ils se tiennent là, ils regardent tout
ils
ce que je fais.
Ils épluchent les légumes.
Et là, ça, l'été ça va, j'y arrive, mais à Paris j'y arrive pas. Et après, ben on met tout à table et puis on y va.
Héloïse Brion.
Oui, moi je trouve que ça fait partie de la vie, c'est essentiel, c'est un moment de partage où tout le monde s'assemble pour partager un repas qui nourrit le corps, mais aussi le cœur et l'esprit.
Pourquoi vous avez besoin de recevoir et de partager, Héloïse Brion ?
Parce que justement, je trouve qu'on est en plus dans un monde où tout est un petit peu connecté par les ondes, mais plus par l'humain, et qu'on a besoin de se rassembler, en plus avec tout ce qu'on a vécu, d'être autour d'une jolie table et de partager des bons repas. Je trouve qu'en effet, c'est très bon pour le moral.
Et ça coûte pas forcément très cher, on y reviendra tout à l'heure.
Tout à fait.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Fringant, rédacteur en chef du 1 Hebdo, à la une cette semaine.
Et cette semaine, dans le 1, on parle d'inflation. Inflation, jusqu'où ça va grimper?
Et on commence avec vous, place au livre. Alors, Julien Bisson, figurez-vous, alors ça intéresse personne, mais que j'ai commencé le livre dont vous allez nous parler avant que vous me le proposiez. Ça s'appelle « Un été dans la Sierra ». C'est signé de l'américain John Muir, un écrivain américain d'origine écossaise. Un récit qui paraît en poche chez Folio. Et ça se passe en 1869.
Oui. Alors, John Muir, c'est le grand-père de tous les écrivains voyageurs. C'est le fondateur du Nature Writing, le prophète des grands espaces à l'américaine. Et pourtant, vous l'avez rappelé, il est né en Écosse, ce John Muir, en 1838, avant d'émigrer aux États-Unis à l'âge de 11 ans, dans le Wisconsin, où sa famille acquiert une ferme. Alors c'est là, dans ce Wisconsin, que le jeune John Muir grandit, là aussi qu'il prend le goût de la liberté et décide de ne pas faire d'études, mais plutôt de s'inscrire, comme il le dit, à l'université de la vie sauvage, ce qui va inspirera plus tard, par exemple, le héros de Into the Wild. À partir de là, il va mener une vie de bohème, sillonner les vastes étendues américaines, avant d'arriver en 1868 à San Francisco, où il entend parler d'un lieu mystérieux dont le nom l'intrigue, Yosemite. Il va s'y rendre quelques jours dans cette vallée de Yosemite. Il veut y retourner. Il accepte donc la proposition d'un propriétaire de ranch de mener et de surveiller son troupeau de moutons, tout un été dans la région de Yosemite pour faire avec eux et sa propre transhumance. En réalité, une transhumance au plus près de la vie sauvage. Et c'est cette expédition qu'il raconte dans Un été dans la Sierra, qui est depuis devenu un grand classique du récit de la vie sauvage, de la wilderness aux États-Unis.
C'est John quoi Muir, la wilderness?
La wilderness, c'est justement ce concept très américain du monde sauvage. C'est ce monde sauvage qui est juste à côté des villes, juste à côté de l'endroit où on vit, et l'idée qu'il y a un potentiel de vie sauvage qui est vraiment à côté de nous et qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui aux États-Unis. Si vous allez aux États-Unis, c'est pas tout à fait pareil qu'en France. Il y a beaucoup d'endroits encore où vous avez des coyotes qui traînent de ci de là, des espaces sauvages qui peuvent être vraiment vaste sur des centaines de kilomètres. Alors John Muir raconte dans ce livre la vie pastorale, il raconte la vie simple de l'homme libre, le compagnonnage avec les autres bergers, le rythme lent et apaisant de la marche, mais ce qu'il ressent surtout, c'est que plus il monte dans la Sierra, plus la nature devient sauvage et plus il lui semble qu'il rentre chez lui, parce qu'il approche cette beauté du monde qu'il pressentait. Il écrit ainsi, c'est un extrait dans le livre, « Aussi longtemps que je vivrai, j'entendrai les chutes d'eau, le chant des oiseaux et du vent, j'apprendrai le langage des roches, le grondement des orages et des avalanches, je me livrerai aux glaciers et aux fleuves sauvages, et je resterai aussi près que possible du cœur du monde. Et qu'importe la faim, le froid, les travaux difficiles, la pauvreté, la solitude, les besoins d'argent, le souci d'être connu ou de se marier. » Alors, c'est tout ça qu'il essaie de nous transmettre avec cet ouvrage, c'est l'émerveillement face au spectacle du monde, c'est le saisissement face au chant de la nature, et ce chant qui vient trouver une harmonie en nous. Je le cite encore dans cet ouvrage, il dit ceci: « Nous sommes dans la montagne, et la montagne est en nous, dans chacun de nos nerfs pénétrant par chacun de nos pores, et notre corps alors devient transparent comme du verre à la beauté qui l'environne, comme s'il en était devenu une partie, vibrant avec l'air et les arbres, les courants et les rochers dans les vagues du soleil, une partie de la nature non plus vieille ou jeune, saine ou malade, mais immortelle. » Et immortel, c'est un mot très important pour lui, parce que si ces espaces naturels sont encore immortels aujourd'hui, si nous pouvons encore aujourd'hui aller nous balader dans Yosemite, c'est parce que John Muir s'est battu pour les préserver, c'est parce que lui a fait énormément d'articles à l'époque pour essayer d'alerter la population américaine sur la beauté de ces espaces qui étaient juste à côté d'eux. Et c'est notamment ces articles qui ont inspiré la création des parcs nationaux, dont bien sûr celui de Yosemite ou de Yellowstone. John Muir avait parmi ses grands admirateurs un certain Theodore Roosevelt, qui a été l'un de ses chantres de ces grands espaces.
Président des États-Unis
au tout début du XXe siècle. Et un siècle plus tard, il nous reste ce livre, ce réel livre sous forme d'un journal de voyage qui nous transporte au cœur de ces paysages incroyables. Mais c'est un dépaysement, bien sûr, ça nous raconte ces grands espaces de Californie, mais ça nous dit aussi, c'est une invitation à observer la beauté partout où elle surgit, et pas seulement, justement, au cœur de la Californie.
Guillemette.
Ce qui me fascine, moi j'ai lu le livre il y a assez longtemps, mais j'ai appris plus tard, effectivement, qu'il était à l'origine de la création des parcs nationaux. Ça me fascine comme, en fait, une plume peut provoquer un vrai changement politique et écologique. Donc, il faut écrire, il faut militer. il faut dire la beauté des choses, et peut-être qu'un jour, effectivement, des choses adviennent.
Lisez, vous nous avez donné envie, Julien, Un été dans la Sierra de John Muir, et c'est disponible en poche chez Folio. Second choix de votre sélection, un très gros livre du scénariste Charlie Kaufman, ça s'appelle Unkind, et c'est publié aux éditions du Sous-Sol. Pourquoi ce livre vous a fait du bien, Julien ?
Eh ben, vous savez, la semaine dernière, je vous parlais de Michael McDowell, le scénariste de Beetlejuice et auteur de la série littéraire Blackwater. Et c'est vrai que je reste dans les scénaristes américains avec Charlie Kaufman. Alors Charlie Kaufman, on lui doit notamment Dans la peau de John Malkovich ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui lui avait à l'époque valu l'Oscar du meilleur scénario original. Et Unkind, c'est son premier roman. Alors c'est un, comme vous l'avez dit, un gros pavé, de près de 900 pages.
C'est bien pour le week-end de Pentecôte.
Voilà, c'est parfait pour votre week-end. C'est parfait pour même un peu plus loin. Vous pouvez faire la Pentecôte, vous pouvez faire l'été. Il y a pas de problème. C'est traduit par Clara aux éditions du Sous-Sol, et il est là aussi question de mémoire et d'un psychisme un peu déjanté. C'est l'histoire Unkind de B. Rosenberg Rosenberg. C'est un critique de cinéma névrosé et méconnu. Pas comme Guillemette aussi.
C'est sinon. L'inverse de Guillemette.
Ami passable et amant pitoyable.
Merci.
L'inverse de Guillemette.
Merci les amis.
Et il tombe par hasard sur un film inédit et complètement dingue. C'est un stop motion de 3 mois de long qui a pris 90 ans à son réalisateur pour le faire. Alors notre héros comprend qu'il a affaire au plus
stop
grand
motion
projet.
Expliquer, c'est une technique.
Stop motion, c'est quand vous prenez une image, vous déplacez un objet, et puis vous faites une autre image, et ainsi de suite. Et il a compris qu'il a affaire au plus grand projet de l'histoire du cinéma que personne n'a jamais vu. Et il décide alors de ramener les pellicules chez lui pour écrire le très grand livre que mérite ce très grand film et qui lui assurerait la gloire qu'il attend depuis si longtemps. Sauf que son camion prend feu, détruit toutes les bobines du film, sauf une image. Une seule image à partir de laquelle il va devoir tenter de reconstituer le film de mémoire. Alors voilà, c'est un point de départ assez délirant de cet objet littéraire totalement dingue. Unique, pris entre rêve et réalité parallèle, entre humour à la Monty Python et culture pop très étendue. Vous allez avoir toutes les genres de cinéma qui vont être convoqués dans ce livre. Entre débats sur le politiquement correct et réflexions sur les liens entre création et créateur, c'est complètement barré. Faut parfois un peu s'accrocher, mais il y a des pépites à toutes les pages. Et je vous conseille notamment, Guillemette, la bonne façon de regarder un film quand on est critique de cinéma, puisque selon le narrateur, il faut s'y prendre à 7 fois. 7 fois, dont une fois la tête en bas, et une fois totalement à l'envers, pour du coup apprécier l'esthétisme du film sans être dérangé par le scénario. Et la dernière fois, tout simplement, en ne le regardant pas. Alors, une chose est sûre...
Le conseil sur la tête à l'envers, ça me fera faire du sport, éventuellement, c'est pas mal.
Alors, une chose est sûre, c'est que...
Retour V9, vous savez.
Pour ce gros roman, vous n'aurez pas besoin de le lire 7 fois, je vous le promets, pas besoin de le lire 7 fois pour le savourer, il suffit de vous laisser porter dans la tête de ce cinéaste un peu allumé. Je vous promets que le voyage en vaut la peine.
Guillemette Odissino.
Ah bah non, mais j'ai envie direct, là. Je crois que j'ai même quitté l'émission pour aller bouquiner dans les coulisses. Bah, effectivement, ça, moi, tout m'excite dans ce que vient de dire Julien. Surtout cette notion de pouvoir réinventer, même de manière folle, absurde et tout, réinventer un objet de cinéma à partir d'une seule image. Enfin, c'est tout un travail de mémoire et de folie en même temps. Enfin, en plus, quand on sait les scénarios qu'il a écrits, oui, ça donne très envie.
Ça s'appelle Unkind de Charlie Kaufman et c'est publié aux éditions du Sous-Sol et c'est traduit par Claro. La sélection de Julien Bisson est à retrouver sur le site et sur l'appli France Inter. 10h20, l'heure de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino.
Je vous la lis la tête en bas? Non. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, cher Ali, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'expression « l'art de recevoir » m'angoisse un brin. Car qui dit « art » dit « résultat ». Beau résultat. Et on s'est tous mordu les doigts d'avoir voulu tenter une nouvelle recette pour épater la galerie, ou d'avoir tenu absolument à faire entrée, plat, dessert, alors que pourtant on le sait que nos amis auraient été aussi heureux et moins ballonnés avec une simple viande rôtie et des fraises chantilly. À l'inverse, nous savons tous une amie, adorable et cool en général, mais qui, dès qu'elle se meut en hôtesse, devient tendu, passe son temps à courir à la cuisine, vous demande 10 fois si vraiment, mais vraiment, vous aimez sa quiche, si vraiment, vraiment, sois honnête, je t'en prie, sa blanquette n'était pas trop salée, et pourrit elle-même cette soirée qu'elle voulait si réussie. L'art de recevoir est un piège quand il devient un orgueil, un test d'estime de soi. C'est pour cela que j'ai une tendresse particulière pour le personnage, pourtant peut-être le plus désagréable, oui, de Cuisine et Dépendance. La première pièce, géniale, écrite par le duo Bakri-Jaoui, oui, puis le film qui en découla. Alors j'ai nommé Martine, incarnée par Zabou. Martine et son ami Jacques ont invité une star médiatique et sa femme Charlotte, une amie de 10 ans, à dîner. Parmi les autres convives, Georges, un ami peu conciliant, Jean-Pierre Bacri, qui dort sur le canapé depuis un bail. Et Fred, le frère particulièrement décontracté, Jean-Pierre Daroussin, de Martine. On ne saura jamais ce qui se passe à table dans le salon, mais tout le monde se retrouve tour à tour dans la cuisine, et pour le dire vite, la soirée est une catastrophe. Quoique, c'est un échec cuisant, humiliant, surtout dans l'esprit de Martine, qui misait trop sur ce dîner, cet exercice mondain où se joue la comédie humaine avec ses masques, ses hypocrisies, ses jalousies, ses snobismes et ses rancœurs. Ce dîner où, pour être bien vu d'une célébrité, Martine est en fait odieuse avec tout le monde.
Et c'est parce que Martine est avant tout déçue.
Mais oui, elle est excédée, elle s'agite, elle débite des clichés, des méchancetés. Elle trouve que son mari est un pauvre type, que son frère lui fait honte, que son ancienne amie Charlotte a mieux réussi qu'elle. D'abord endimanchée avec sa jupe et son serre-tête, elle décide de se changer en cours de soirée pour avoir l'air plus chic. Et la voilà tellement pomponnée qu'en comparaison, une danseuse de flamenco paraît discrète.
Ils ont à peine touché à la bûche.
Ça se passe bien, on dirait.
J'aurais peut-être dû la laisser là-bas, seulement ça fond à une allure.
Hein ? Ah, ça prend bien.
Quoi ? Qu'est-ce qui prend bien ?
Non, rien, la soirée, là, je trouvais qu'elle prenait bien. Ça fait combien de temps que t'avais pas mis cette robe ?
Elle me va pas.
Mais si, mais justement, je me demandais pourquoi tu la mettais pas plus souvent. Elle est magnifique.
Tu as vu que personne n'a touché à la bûche ?
Vous vous êtes bourré de pistaches.
Une bûche pareille que j'ai fait faire. C'était pourtant une bonne idée, une bûche glacée en juin.
En juin, donc. Ne prenez pas de bûche glacée, ça marche pas. Oui, même son choix de dessert devient une blessure narcissique. Alors que son mari lui dit qu'il la trouve jolie. Avec cette bûche, c'est comme si soudain, sa vie entière fondait. Martine, la femme au foyer, se découvre inutile et pitoyable. Et la voilà désespérée, qui hurle et sanglote pour des histoires de poissons trop salés, de parties de poker qu'elle n'avait pas prévues, et d'ouvre-boîte qui doit être rangée dans un tiroir et pas un autre, d'accord ? Pas un autre.
Et donc Martine n'organisera plus jamais de dîner.
Bah un jour, peut-être. Mais en attendant, c'est moi qui l'invite.
Vraiment ?
Car, absolument, car il faut la voir heureuse, détendue, et si reconnaissante devant mon salon mal rangé, mon absence de maquillage, mon menu tout simple et ma tarte franchement cramée. Si vous voulez apprendre à recevoir, deux conseils donc, choisissez des convives beaucoup plus stressés que vous, ou alors simplement commencez par le plaisir si décomplexant d'être reçu.
Julien Bisson.
Oui, ce qui est frappant, vous l'avez rappelé, Guillemette, c'est que dans le film, l'idée, c'est qu'il y a un invité qu'il faut impressionner plus que les autres. Dans ce repas, il y a aussi cette idée qu'il faut être digne de la star. Et c'est véritablement ça aussi le grand drame des réceptions. C'est quand d'un seul coup, on ne peut pas faire comme à la bonne franquette et qu'il se joue aussi des codes
bien
sociaux
sûr,
très forts et qu'on veut être digne de l'invité.
Quel cauchemar.
Thibaut de Saint-Maurice.
Je pense à une autre amie du vendredi des Guillemettes dont vous nous avez parlé il n'y a pas si longtemps, qui est celle qui reçoit dans le film Le Prénom et qui,
absolument,
au contraire, s'oublie complètement,
absolument,
en cuisine au service du repas. Et qui dans le film, voilà, ça explose au bout d'un moment. Mais
Valérie Benguigui.
Voilà, il y a ce lien entre ces deux amies-là.
Elles sont sœurs, l'une dans l'amertume, et effectivement, l'autre ne devient amère et n'explose qu'à la toute fin.
Mais vous pourriez du coup les inviter ensemble à dîner.
Mais c'est tout à fait possible.
Voilà. Vous, Perla, vous vous oubliez totalement.
Je sais même pas. Alors, l'art, je suis le contraire d'une artiste. Je suis une cuisinière ménagère de base. Ensuite, recevoir, je sais pas ce que c'est. Je fais à manger,
oui,
et puis des gens que j'aime viennent se mettre autour d'une table. Et peut-être que c'est ma culture marocaine qui m'invite à ça, mais je ne sais faire Que ça.
L'ami du vendredi à partager et à podcaster sur les applis France Inter et Radio France. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière et Camille Poukjalagui avec l'aide d'Alice Galtier et de Zoé Charef. Nouvelle venue dans cette émission, la réalisation était signée Claire Destacan, la programmation musicale Valentine Chedebois. À la technique cette semaine, Kevin Pelot et Florian Dorimini. Dans un instant, comment m'y recevoir au beau jour. En attendant, on écoute Abba, Dancing Queen, des souvenirs de Guillemette Odissimo dans les années 70.
Oh, j'avais 2 ans, mince.
Interpréter Dancing Queen.
Ça va.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi sur France Inter.
Grand bien vous fasse loisir et nous célébrons ce matin l'art de recevoir.
Marie Laurentin vient d'écrire un livre sur l'art de recevoir. Ce livre, vous l'avez écrit, madame, forte de votre expérience, je crois.
J'ai voulu essayer de leur dire ce qu'il faut faire et pas faire. Puis aussi leur donner quelques trucs, parce que les trucs, tout de même, ça sert.
Quels trucs ?
Inventer une formule de réception originale, recevoir à la chinoise, comme les Japonais sur des coussins, faire un couscous, recevoir comme les Américains le dimanche, avec une parfaite simplicité, recevoir comme les Scandinaves avec un tas de petites boîtes, avec dedans des poissons extraordinaires qu'on n'a jamais mangés. Nous sommes très traditionnalistes, nous recevons toujours de la même façon, c'est idiot, il faut changer.
Il faut créer une ambiance, donc.
Il faut créer une ambiance, il faut avoir des idées. Et il faut s'amuser, au fond, essayer de s'amuser. La vie est si triste que quand on se reçoit, c'est pas du tout pour s'embêter.
Méni Grégoire dans le magazine féminin. Avec nous toujours Héloïse Brion, alias Miss Maggie's Kitchen, qui publie Mon art de recevoir chez Flammarion. Vous proposez des plats à partager en toute saison. Et avec nous également Perla Servranche-Rébert, qui sort un tout petit livre de recettes indispensables, mais 30 recettes d'été. Héloïse Brion, depuis que vous êtes toute petite, l'une de vos phrases préférées, c'est « à table ».
Parce que je suis très gourmande.
Mais vous êtes amoureuse du contenu de l'assiette et de la mise en scène de la table.
Bah oui, parce que je trouve que ça fait partie de tout un voyage quand les amis arrivent. Alors c'est pas forcément pour les impressionner, mais ça fait partie d'un voyage qu'on va partager ensemble et c'est la première chose qu'on va voir. Comme le disait Angèle au tout début, en fait le repas ça appelle tous les sens. Donc il y a la vue, il y a l'odorat, puis après le goût, le son des verres qui trinquent. Et donc c'est essentiel.
Qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi le carburant qui vous pousse à beaucoup inviter, à beaucoup recevoir, à partager?
Alors, je le fais même quand on est quatre à la maison, oui. C'est-à-dire avec les enfants. Je trouve que c'est important. Ce qui est dans l'assiette est essentiel, mais ce qui est tout autour aussi. Si on a une table qui est vraiment pas très bien mise, je trouve que c'est moins bon finalement, et c'est vraiment un cadeau. Alors, il faut surtout être décomplexé par rapport à tout ça. Moi, mon art de recevoir, c'est casser les règles. Il n'y a pas de règles, en fait. C'est vraiment plutôt un côté créatif que.
Mais par exemple, il y a de très belles tablées dans votre livre. Vous prenez par exemple un navet que vous coupez en deux, vous mettez une bougie dessus. Vous faites un bougeoir avec le navet coupé en deux. Enfin, ça coupe pas forcément des milliers des cents, quoi.
Exactement. Je pense que c'est surtout ça. C'est que les gens ont souvent peur de devoir investir dans des bougeoirs, des choses qui vont coûter très cher. Finalement, même les assiettes peuvent être dépareillées si on.
Il suffit de bien chiner. On peut acheter des assiettes anciennes pour pas très cher, dans des tas de vide-greniers, de brocantes.
Pareil pour les verres. Ensuite, on peut aussi décorer avec une branche du jardin. Quelques fleurs, des navets, mais des citrons, des artichauts, enfin vraiment suivant les saisons.
Et même si on n'a pas de jardin, si on a juste un balcon, une terrasse.
Tout à fait, vous allez voir votre fleuriste chérie.
Vous, Perla Servranche-Rébert, vous aimez recevoir et ça remonte à votre enfance marocaine, à ce goût des grandes tablées. Hein.
Oui, ça c'est. Voilà, c'est.
Et vous n'étiez pas très riche à l'époque?
C'est un gène. Oui, voilà. La table, pour moi, à l'époque, dans mon enfance, on était une famille de 6 enfants au Maroc, de conditions modestes. Mais à table, j'avais l'impression qu'on était riche. Et c'est probablement ça que j'ai envie de continuer à recréer. Et puis, il y a quelque chose qui circule entre les gens qui partagent quelque chose que j'ai fabriqué avec joie et qui est quand même quelque chose qui a à voir avec l'amour. Hein. Ça, c'est merveilleux. J'ai une amie qui me fait un cadeau inouï. Elle organise chez moi ce qu'elle appelle des magic lunch. C'est-à-dire qu'on convient d'une date. Et elle vient avec 6 personnes que je ne connais pas, dont j'ai jamais entendu parler. Et autour de cette table, quand ils sont repartis, j'ai 6 amis de plus. C'est quand même magique.
Héloïse Brion, revenons à votre art de recevoir. Pourquoi est-il important de ne pas négliger la décoration de la table?
Parce qu'encore une fois, c'est la première chose que les invités vont voir, et donc c'est un cadeau qu'on leur fait, qu'on se fait à soi aussi. Hein. C'est quelque chose que c'est un moment qu'on va tous partager ensemble. J'aime bien faire des petites attentions pour les invités. Alors
des petits cadeaux, tout simple. Petits cadeaux,
mais ça peut être très simple. Ça peut être un bouquet d'herbes aromatiques. Déjà, toute la pièce va sentir divinement bon, et en plus, chacun repart avec son petit bouquet, le sang. Enfin, c'est vraiment des toutes petites choses, mais c'est une attention. Mettre un brin de romarin avec une serviette. Tout ça, ça crée des petits détails, et en fait, je pense que ça crée des souvenirs aussi. Qui sont en nous. Enfin, moi, j'ai ça de petite, mais qui reste ensuite en chacun sur ce moment-là qu'on a tous passé ensemble.
Puis surtout, ne pas se mettre la pression. Moi, je trouve qu'il y a une émission qui a fait beaucoup de mal. C'est un dîner presque parfait, cette compétition, vous savez. Vraiment, il faut s'enlever ça de la tête, enlever cette pression, faire les choses avec simplicité. C'est vraiment votre leitmotiv dans votre livre.
C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs même dans les recettes. Je choisis d'utiliser des ingrédients qu'on trouve très facilement partout, pas d'utiliser des ustensiles. Ustensiles de dingue, des robots de fou non plus. J'ai envie que les gens soient heureux en cuisine et autour d'une table. Voilà.
Et comment concilier grande tablée et baisse du pouvoir d'achat? Recevoir du monde, ça coûte forcément cher?
Non, pas forcément. Je pense que si on va au marché, en plus, on trouve des produits de saison, etc. Il y a toujours des moyens de faire des choses qui sont pas chères du tout.
Qu'est-ce que vous en pensez, Père Lassalle-Schreiber ?
Moi, je suis une militante du plat unique.
Oui, c'est vrai.
Parce que c'est bien et pour la maîtresse de maison
ou le
et
maître
pour
de
le
maison.
Budget ou le maître, pardon, ou le maître de maison et pour le budget et puis le fait qu'on reste à table avec ses amis. C'est important.
Angèle Ferremag.
Et aussi, on sait aujourd'hui qu'on peut faire vraiment des merveilles. Sans utiliser de viande ni de poisson, c'est vraiment ce qui coûte cher quand on veut bien manger. Et donc faire une, par exemple, il y a un plat italien que j'adore qui s'appelle la soupa di legumi.
C'est quoi ?
Je sais pas si vous connaissez.
La soupe de légumes.
C'est une soupe de non, les légumes, les legumi, c'est les oléagineux, les légumes secs. Merci. Ouais, donc les pois chiches, les lentilles, les haricots blancs, etc. Et avec un peu de parmesan râpé. Moi, je suis allée à l'improviste chez une amie l'autre fois. Quand elle m'a servi ça, je me suis sentie mais honorée vraiment.
Guillemette.
Ah, moi, je suis extrême. Merci Perla pour le plat unique, déjà. Voilà. Beaucoup de reconnaissance. Et même, moi, il y a des fois, pour ne pas me stresser du tout, je fais aussi des repas froids. Non, mais vous plaisantez, mais vous faites cuire un roast beef la veille. Le lendemain, c'est hop, avec une petite mayo. Vous faites une salade, des choses comme ça. Parce que vraiment, là, c'est idiot. Mais le fait de servir chaud pour tous les invités, au bon moment, etc., c'est vraiment 10%, si ce n'est 20%. Du stress d'une maîtresse de maison.
Héloïse Brion.
Tout à fait. Puis on peut créer un buffet comme ça avec les différentes choses. Chacun se sert. Mais même les grandes planches. Moi, j'en ai mis dans le livre et je donne un petit peu des indications pour ça. On mélange alors des fromages, mais des fruits secs et des fruits frais de saison.
Ouais, c'est très beau.
Tout d'un coup, on va mettre soit une poire pochée ou des pêches si c'est la saison des pêches, etc. Des petites choses. Et il y a un côté bluff avec des herbes un peu aromatiques comme ça, des noix, etc. Il y a un côté bluff. Donc tout le monde se dit ah là là, ça a pris des heures alors que ça a mis franchement 10 minutes. Et tout le monde se régale.
Et puis quand on organise une fête, on peut demander à ses convives d'apporter une salade, une quiche, du fromage, un dessert.
Alors, ça, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il faut aussi enlever cette pression de se dire qu'on doit tout faire. Même l'été, quand il y a la tribu qui arrive à la maison, il faut faire les listes de courses. Alors, je donne aussi des indications par rapport à ça. Et comme ça, il y a quelqu'un qui s'occupe du fromage, un autre des fruits et légumes, une autre personne de tout ce qui est de protéines. Et comme ça, ça vous permet d'aller siroter un petit verre sous les platanes en attendant tout le monde.
Et au début de votre livre, vous partagez 7 conseils pour une mise en scène de table. Alors, le premier conseil, c'est la mise en place, c'est ça ?
Bien sûr. Bah, en fait, c'est des conseils. Parce que c'est vrai qu'on pose souvent la question, en fait, de comment faire une jolie table. Et donc, j'essaye de dire aux gens d'être le plus libre possible, tout en donnant quelques petites indications. Mais ensuite, vraiment, ma règle de base, mon conseil, c'est de suivre votre instinct et ce qui vous fait plaisir.
Fleurir sa table, ça c'est important. Voilà. De jouer avec les matières aussi.
Bien sûr, on peut mélanger avec justement de la vaisselle ancienne, mais aussi du bois, un travail de céramique aussi, de son village ou du coin. Enfin, je trouve que ça donne du rythme, comme pour les auteurs.
Entremêler les styles aussi.
Entremêler les styles, tout à fait, justement, entre des choses qui sont faites aujourd'hui à la main et des choses anciennes. Juste un conseil quand même, c'est de faire attention à la hauteur du centre de table. Donc que ce soit des bougies ou des fleurs, il faut quand même faire attention à ce que les gens puissent se voir. Parce que quand on est obligé de tourner la tête, etc., c'est franchement moins agréable pour tout le monde.
La playlist, c'est très important, la musique.
Essentiel. Alors, moi, j'adore faire des playlists, en sortir tout le temps, plusieurs fois par saison, pour la période. Mais ensuite pour le dîner, et ensuite si on a envie de danser, j'en ai toujours une ou deux qui sont prêtes.
Pour le déjeuner ou le dîner, plutôt aussi, du jazz ou de la musique classique.
Moi, un peu de blues aussi.
Après, une musique plus dansante.
Exactement,
pour le reste
même en passant
par
la country music aussi, pourquoi pas.
Ne pas négliger la lumière aussi, les bougies, les guirlandes.
Essentiel. Je trouve qu'en plus, ça donne bonne mine à tout le monde. On a envie d'avoir un joli teint sans forcément être trop maquillé. Et ça rend tout doux.
Et Père Lassalle-Schreiber, si on a des copains musiciens, qu'ils apportent leur guitare ou leur violon, ou leur saxophone, c'est important ça, ces moments.
On vient avec ce qui est important pour soi, mais on vient surtout avec de la joie parce que il y a un truc que la vie m'a appris, c'est que la joie c'est contagieux. Alors c'est pas mal du tout de se frotter à des gens joyeux.
Revenons au basique de l'art de recevoir. Quand on a des grandes tablées, c'est difficile d'ajuster les proportions. Les recettes pour 4 ou 6 personnes ne sont pas forcément adaptées pour 12 personnes, Perla.
Non. Alors je ne sais pas par quel phénomène, magique, c'est que une recette se divise et bizarrement elle ne se multiplie pas. On peut se gourer en multipliant, probablement parce que ma recette, ma cuisine est faite à base d'épices, vu mon origine marocaine, et qu'effectivement, si vous multipliez par 4 la dose de cumin ou de paprika, vous risquez quand même d'aller très loin. Mais en la divisant, vous vous préservez.
Alors, quand on reçoit beaucoup Héloïse Brion, on se dit, ah là, il va me falloir des casseroles énormes, des poêles XXL. C'est quoi vos conseils? Parce qu'on peut être un peu freiné par cet aspect très, très pratique de la préparation du repas.
Bah, en fait, je pense qu'il faut se prendre un petit peu, si on va être vraiment très nombreux, un petit peu à l'avance, et voir ce qui peut être préparé et gardé au frais en amont, ou même des cakes ou des tartes, etc. Et puis voir ce qui doit être fait minute. Mais c'est vrai que moi, j'essaie de faire des choses, justement, qu'on n'a pas besoin. Enfin, j'aime bien être avec les gens aussi. Alors, si on est à l'intérieur, la table est au milieu de la cuisine, mais s'ils sont en extérieur, j'ai pas envie de me retrouver seule en cuisine, donc du coup je prépare en amont un petit peu les choses.
Angèle Ferromague.
Je trouve qu'il y a aussi, c'est vrai que quand on parle de garder au frais, même congelé par exemple, là les fruits rouges vont arriver, bourrer son congélateur de fruits rouges, et toute l'année, quoi qu'on fasse en dessert, mettre des fruits rouges congelés dessus, qui sont en train de dégeler, donc il y a une légère une cristallisation un peu blanche, c'est très très beau, et ça c'est le genre de truc qui est très pratique et qui demande pas grand chose.
Guillemette.
Avant même de décider son menu, c'est se regarder bien et se dire, bon, ce plat-là, il se fait au four, ah bah mince, celui-là aussi, ah bah mince, celui-là aussi, donc ça ne marche pas. Donc non, mais c'est vrai, c'est réfléchir d'abord, c'est même pas le nombre de casseroles, c'est réfléchir comment on cuit les trucs qu'on a prévus pour recevoir. Et donc éliminer au fur et à mesure en disant je vais mettre un truc dans un faitout, un truc au four et un truc dans un saladier et voilà.
Le meilleur truc anti-stress, Guillemette a raison, c'est l'anticipation. Il en faut un minimum d'anticipation parce que tout à la dernière seconde ça fonctionne pas.
Alors vous Perla, vous aimez servir les plats sous forme de mezzé, servir plusieurs heures d'œuvre en même temps et accompagner d'un bon pain maison que vous nous avez apporté d'ailleurs. Très bon, n'est-ce pas? Je vous boulotter depuis tout à l'heure.
Je suis en extase complète, moi.
Sous forme de mezzé, là, on peut même faire un déjeuner à base de hors d'œuvre.
Oui, j'aime assez faire ça. Et maintenant, je sais pas, spontanément, ce qui se passe actuellement à la maison, c'est que comme je suis à la cuisine et que quand mes amis viennent, ils me retrouvent là, ils ont un bar. Alors là, je leur sers des petits trucs avec l'apéritif et à table, un seul plat. Donc, c'est d'une grande simplicité. J'ai pas besoin d'aller venir 300 fois. Et je trouve que le côté pratique, c'est un peu comme ce petit livre, quoi. Je veux dire, on le glisse dans la poche. On n'a plus besoin de faire des listes de courses. On glisse le livre lui-même dans la poche, dans le panier. Et hop, on rentre et on se met au fourneau.
C'est quoi votre incontournable de l'été quand vous recevez votre Héloïse Brion, le plat que vous aimez faire?
Moi, j'aime bien faire des pizzas l'été. Ouais. Je trouve que c'est chouette parce qu'on peut en faire 3-4 différentes, on les met sur la table et c'est bon quand c'est chaud, mais tiède à température. Enfin,
même froid, c'est bon.
C'est froid, c'est ça. Chacun vient servir ça avec du bon melon et c'est tout.
Allez, il est temps de retrouver votre recette, Angèle Ferromague, pour de grandes tablées ce week-end de Pentecôte. Alors, Angèle Ferromague, Guillemette Audicino a déjà tout fini.
Bon, on va pouvoir arrêter de...
Voilà.
C'est vrai que je ne fais que bouffer pendant ce
week-end. Qu'est-ce que vous nous proposez pour ce week-end, Angèle?
Alors, je vous propose, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, donc on ne se nourrit pas que de ce qu'on mange, mais aussi de la conversation, des odeurs, des moments de partage, et de la beauté de la table et des plats. Donc en plus, quand c'est beau, ça donne envie, donc on salive et donc on digère mieux. Et ça tombe bien, parce qu'il est aussi de la responsabilité de celui ou de celle qui reçoit de prendre soin de la bonne digestion de ses hôtes.
Je rappelle que vous êtes naturopathe également.
Voilà. Thibaut de Saint-Maurice et son amie Nadine de Rothschild pourront en attester. Donc j'ai voulu vous proposer aujourd'hui une belle recette, un plat comme un bouquet sur la table, comme un tableau printanier qui nourrit aussi la vue. Donc c'est une tarte à base d'un sablé de parmesan avec une fine robe de gorgonzola et couronnée d'un bouquet de légumes et de fleurs de saison. Donc pour ça, on va commencer à préchauffer notre four à 200 degrés, avant tout. D'ailleurs, cette recette peut être faite en avance et dressée, donc assemblée au dernier moment. Donc ça, vous pouvez tout à fait le faire la veille. Et après, siroter sous les tilleuls votre petit kir. Donc on préchauffe le four à 200 degrés. Pour le sablé, on va mélanger. Alors cette recette de sablé est très simple et vous pouvez l'utiliser même pour l'apéro, faire des petits... Enfin, vraiment comme vous voulez. Vous mélangez 150 g de parmesan fraîchement râpé, 150 g de farine de votre choix, 125 g de beurre à température ambiante et deux jaunes d'œufs. Vous mélangez bien tout ça, on pétrit rapidement jusqu'à ce
pas
que
trop,
la...
hein.
pas trop, jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Ensuite, on la dispose entre deux feuilles de cuisson. Alors ça, c'est une astuce pour pas avoir trop de vaisselle. On met entre deux feuilles de cuisson et ensuite on étale à l'aide d'un rouleau ou d'une grosse bouteille, si on veut, ça marche très bien aussi. C'est très efficace. Ensuite, on enlève le papier supérieur délicatement. Et pour que la forme soit bien ronde, alors autre petite astuce, vous pouvez déposer, retourner une assiette dessus et contourner avec la pointe d'un couteau pour faire la forme bien ronde d'un fond de tarte. Ensuite, on va ôter le surplus autour qu'on mettra quand même au four pour grignoter. Hein, on le jette voilà, pas, bien
on
sûr.
Jette pas.
Et ensuite, on va enfourner notre fond de tarte environ 15-20 minutes jusqu'à ce que le biscuit soit bien doré et on va le laisser refroidir complètement dans son coin. Pendant ce temps-là, on va préparer nos petits légumes. Alors, cette recette est valable pour toutes les saisons. Là, on est au printemps, donc on va pouvoir blanchir des petits pois, couper finement à l'aide d'une mandoline ou d'un couteau bien aiguisé des asperges fraîches ou une petite courgette. Et ensuite, à feu vif, on va pouvoir faire revenir des shiitakes dans un filet d'huile d'olive avec du tamari ou de la sauce soja et du sirop d'érable. Alors ça, c'est une façon pour que les champignons shiitake soient excellents. C'est une sorte de wok de shiitake, c'est délicieux, ça marche tout le temps.
C'est quoi le tamari ?
Le tamari, c'est comme de la sauce soja, mais avec beaucoup moins de sel et sans gluten. Donc elle est plus digeste et moi je préfère le goût. Donc vous avez tous vos petits légumes prêts. Vous pouvez étaler sur votre fond de tarte une couche de gorgonzola crémeux, non seulement qui va apporter du goût du crémeux, mais
ça,
aussi...
Ça, je vous assure que ça va apporter du goût.
mais aussi, ça va vous permettre de dresser en fait vos petits légumes, parce qu'on va faire comme une construction. Ouais. Pour que ce soit beau, on va les mettre un par un, mais ça peut être très rapide, mais on va jouer sur la hauteur aussi. Donc on met nos petits pois, nos shiitakes, nos asperges, nos courgettes, et la touche finale, on peut mettre des pétales de fleurs comestibles, des herbes fraîches, de la sarriette, de la moindre poivre et même du persil.
À la pince à épiler ?
Non, au doigt.
Les chefs utilisent la pince à épiler.
C'est vrai que c'est plus précis, mais enfin on peut se débrouiller avec ce qu'on a, nos doigts. Et ensuite, un petit filet d'huile d'olive, et ça fait comme un tableau sur la table. C'est très joli.
Et derrière vous, notre réalisatrice Claire Destacan n'arrête pas d'approuver. Elle boit vos paroles et je sens que ce week-end, elle va faire ça pour toute sa famille. Merci beaucoup, Angèle Ferremag. On peut retrouver votre recette sur votre compte Instagram, celui de la guinguette d'Angèle. Merci beaucoup, Angèle, pour cette belle recette. Après les nourritures terrestres, les nourritures intellectuelles, avec Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello, la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors Thibaut de Saint-Maurice, cette semaine, vous vous demandez si il faut rendre une invitation.
Oui Ali, avec une question donc hein, sur cette ou non, hein, rendre cette invitation ou non. Faut-il, quand on a été invité à dîner à son tour, inviter ceux qui nous ont invités ? Vous vous dites peut-être que c'est plutôt une question donc pour Nadine de Rothschild, mais rassurez-vous, je ne suis pas en train de glisser vers une chronique savoir-vivre et bonne manière. Non, vous connaissez maintenant mes trucs de philosophe, ce qui m'intéresse ici, c'est de questionner cette question. Pourquoi faudrait-il rendre une invitation à dîner ? Pourquoi y aurait-il une obligation ? Après tout, quand on est invité à dîner, il est écrit nulle part que l'on doit inviter en retour. Et pourtant, ça se fait, nous dit-on, et même on se sent un peu obligé d'inviter en retour. À l'inverse, imaginez, quand on invite, on s'attend toujours un peu à être invité à son tour, au point que si on invite plusieurs fois la même personne, sans que jamais cette personne ne nous invite à son tour, il est probable que l'on finisse par ne plus l'inviter du tout.
Recevoir et être reçu, invité et rendre l'invitation, ce serait donc des échanges.
Ah oui, c'est exactement ça. Bravo Ali, c'est exactement ça.
Mais à votre contact, vous savez, Thibaut de Saint-Maurice, je suis de plus en plus
intelligent grâce à vous. Des échanges, notre vie sociale, amicale, mondaine, pourrait-on dire, est en fait une vie d'échange qui exprime ou symbolise la diversité et la puissance de nos liens avec les uns et les autres. L'anthropologie, qui est la science humaine qui essaye d'expliquer ce qu'il y a de proprement humain dans nos manières de vivre, s'intéresse particulièrement à la manière dont se tissent nos liens et la manière dont ces échanges sociaux s'organisent et organisent en fait toute la société. L'anthropologue Marcel Mauss, par exemple, dans son essai sur le don, explique que dans une société, un don appelle un contre-don, qu'une invitation à dîner appelle donc une invitation en retour. Pourquoi ? Parce que inviter, c'est déployer socialement une certaine puissance. C'est faire montre d'une certaine générosité, d'une certaine capacité à pouvoir dépenser sans rien attendre en retour. Et donc, pour ne pas être en reste, Ceux qui sont invités se sentent donc, à leur tour, obligés d'inviter. C'est ce qu'on entend encore dans la vieille formule « être l'obligé de quelqu'un ». Et c'est la même logique symbolique qui s'exprime dans le fait de venir avec une bouteille de vin, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat quand on est invité. C'est une façon d'exprimer un contre-don immédiat au don de l'invitation. C'est une compensation spontanée, immédiate, du déséquilibre que crée l'invitation. Alors bien sûr, toute cette logique de l'échange social se trouve ensuite codifiée hein, en bonne manière, en fonction des cultures, des époques, des modes. Mais l'hypothèse de fond de l'anthropologie, ici, qui est posée par Marcel Mauss et qui est reprise ensuite par Claude Lévi-Strauss, c'est ce que nous appelons lien social entre nous. C'est en fait un tissu tissé d'une grande variété d'échanges symboliques de ce type, c'est-à-dire d'échanges qui installent, au fond, une certaine réciprocité. C'est ce qu'on apprend aussi aux enfants dès leur plus jeune âge, quand on doit aussi en même temps leur apprendre les règles du jeu social. Hein. On leur dit, non, tu invites à ton anniversaire les enfants qui t'ont invité au leur. Voilà, ce chacun à son tour social, qui s'apprend donc très tôt, installe la qualité de nos échanges réciproques comme les indices de la qualité et de l'extension de nos liens sociaux. Tout ça confirme encore une fois que nous sommes des êtres de relation et non pas des individus autosuffisants. À chaque fois que nous tissons un lien et que nous l'entretenons, nous continuons donc de développer l'humanité en nous. Voilà ce qui se joue aussi quand nous nous demandons s'il faut ou pas rendre les invitations reçues.
Guillaume Todisino.
Alors je suis tout à fait d'accord, à une petite nuance près. Moi j'ai des amis qui trouvent que j'habite trop loin et en fait ils préfèrent que je ne les invite pas.
Mais que tu ailles
chez eux. Ça leur fait extrêmement plaisir. Donc voilà, il y a de temps en temps dans les liens sociaux, comme ça, des finesses. Il faut bien connaître ses amis.
La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice a podcasté sur l'appli France Inter et a partagé sur les réseaux sociaux. Dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazorette. Juste après Juliette Armanet et Sébastien qui interprète Vertigo.
Enfin. Non, me regarde pas dans les yeux. Je veux pas que tu vois que j'y vois que toi dans les deux. Je tiens plus très droit. Moi sans toi j'ai l'air un peu louche. Mine de rien je tiens pas bien sûr mes touches.
Juliette Armanet et Sébastien interprétaient Vertigo.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je ne peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
La chronique sexe de Maya Mazorette, en bonne élève, eh bien, ouais, tu restes toujours, dans le domaine des bonnes manières. Tu voulais nous expliquer comment recevoir du plaisir sexuel.
Et oui, on se focalise toujours sur comment donner du plaisir, mais on parle quasiment jamais de comment recevoir du plaisir. Et pourtant, ça aussi, c'est un enjeu. D'ailleurs, quand on ne sait pas recevoir, on est vite rappelé à l'ordre. On se fait traiter d'étoile de mer ou de mal baiser. C'est deux mots au féminin, parce que les hommes ne sont jamais envisagés comme récepteurs du plaisir sexuel. Et là, on entre dans une démarcation hyper binaire entre les genres. Pour une femme, recevoir, c'est être démonstrative y compris quand on ressent rien du tout, jusqu'à la simulation. Et pour un homme, recevoir, c'est rester impassible, quitte à produire une autre forme de mensonge, prétendre qu'on est au-dessus des réalités matérielles, et tant qu'à faire, prétendre qu'on est dans une maîtrise totale de ses terminaisons nerveuses. Dans un cas comme dans l'autre, c'est la spontanéité qui trinque.
Alors Maya, comment faudrait-il recevoir ?
L'avantage des deux stéréotypes que je viens d'évoquer, trop montrer et ne rien montrer, c'est qu'ils sont extrêmes, donc il y a plein de place au milieu, ça laisse un immense espace où s'amuser et communiquer. D'ailleurs, je vais commencer par là. Avec un nouveau partenaire, recevoir implique souvent de cadrer un minimum l'interaction plutôt que de lâcher la personne en terre inconnue. On pense souvent à poser ses limites. Effectivement, si on déteste se faire tirer les cheveux, c'est mieux de le dire avant, oui. Sinon c'est trop tard. Mais ça, une fois que c'est fait, c'est quand même pas mal de donner une ou deux infos sur ce qu'on préfère. Telle zone, telle pratique, tel geste. Et ça, on peut le faire même quand le contact se passe bien. Il ne s'agit pas d'obliger l'autre à se conformer à nos attentes. Pas du tout, en plus ça gâcherait la surprise. Non, c'est juste que cette indication va servir de filet de sécurité si jamais, à un moment, l'autre se sent perdu. Parce que souvent, pendant l'acte, il y a des moments où la tension sexuelle retombe. Il y a des moments où ça patine, on n'est pas des machines. En fait, c'est comme quand quelqu'un vous apporte une bouteille de vin pour un dîner. Vous passez pas commande, mais vous dites si vous préférez le rouge ou le blanc, les vins forts ou les vins légers. C'est plus simple pour l'autre de vous faire plaisir comme ça. Si vous n'aimez pas la communication verbale, il y a le non-verbal. Alors, il y a les petits cris, les soupirs, les frissons, les tressaillements, mais aussi les gestes qui permettent de guider son partenaire. C'est pas parce qu'on reçoit que physiquement, on ne participe pas. J'y reviendrai. Ensuite, recevoir, c'est faire attention au confort du partenaire qui planche sur votre plaisir. Si vous êtes adepte de stimulation longue, pensez aux crampes à la mâchoire, aux tours de reins, aux torticolis, aux douleurs, aux adducteurs, aïe. Bref, à toutes les formes de fatigue que l'autre peut ressentir. Vous pouvez aussi proposer de prendre le relais. Si vous êtes un homme et qu'on parle de fellation non protégée, Thibaut me posait la question il y a un instant, au moment de jouer, effectivement. Par pitié, transmettez l'info, un geste, une phrase, des signaux de fumée, n'importe quoi, juste qu'on ait quelques secondes pour se préparer. Et enfin, pour terminer, dites merci, un geste tendre, un bisou, n'importe quoi. On a beau faire la bête à deux dos, on n'est pas des bêtes.
J'adore cette expression. J'adore cette expression, la bête à deux dos. J'imagine que les rôles ne sont pas toujours figés, hein, Maya.
Effectivement, quand on parle de plaisir d'offrir et de joie de recevoir, on pense forcément au rôle d'actif et de passif. Et on a l'impression que les rôles sont cloisonnés. Mais non seulement on peut sortir du rôle, échanger, arrêter, mais on peut aussi mélanger. Et en fait, le plus souvent, c'est ça qui se passe. Même si vous prenez la position considérée comme la plus passive pour une femme, donc le missionnaire, vous constaterez que les femmes font plein de choses. Elles bougent les hanches, elles contractent leur périnée, elles encouragent, et bien sûr, elles pensent à l'Angleterre. Quand un homme reçoit une fellation, c'est la même chose. Sauf énorme flamme, il va accompagner le mouvement, il va aider avec les mains, donc il va recevoir, mais pas de manière passive. Et c'est sur cette idée que je voudrais terminer. Notre logiciel qui associe réceptivité et passivité, et tant qu'à faire passivité et féminité, il ne fonctionne pas. De même qu'il n'y a aucune connexion entre être un homme et être actif, c'est deux choses différentes. Nos organes génitaux ne conditionnent pas nos pratiques. Il y a du trouble dans la réception, et là où il y a du trouble, souvent il y a du plaisir.
Vous pensez à l'Angleterre en référence à notre émission d'hier, Guillemette et Lucino. Bon, bref.
Je m'attendais pas à celle-là. J'adore cette expression. Mais je sais même pas qui l'a dit dans les 50 dernières années, à part toi, Maya.
La chronique sexe de Maya Mazorette à réécouter seule, à deux ou à plusieurs sur l'appli France Inter. Merci Héloïse Brion, alias Miss Maggie's Kitchen. Merci. Mon art de recevoir, c'est publié chez Flammarion. Merci Perla Savran-Schreiber. Votre petit livre, mes 30 recettes d'été, est publié aux éditions de La Martinière.
58 grammes.
Vous pouvez podcaster les émissions de la semaine sur l'appli France Inter. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 9h30 dans Bel et Bien sur France 2 avec Agathe Le Caron, André Manoukian et Christophe André. Et lundi, dans Grand Main Vous Fasse, comment se mettre ou se remettre au vélo, ça va intéresser Guillemette, comment pédaler au quotidien avec plein de conseils pratiques. Et on évoquera également les bienfaits du vélo. Toutes vos questions dès maintenant sur l'appli France Inter.